From the conference center at Temple
Square. Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la réunion générale des femmes de septembre 2014 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avec des orateurs choisis parmi la première présidence et les organisations des femmes de l'Église. La musique pour cette réunion sera interprétée par un chœur mixte de la primaire, des jeunes filles et de la Société de secours des pieux des régions de Magna, Taylorsville et Salt Lake Hunter. Les femmes, les jeunes filles et les fillettes de 8 ans et plus sont réunies dans le monde entier pour recevoir des conseils et des directives de la part de dirigeants de l'Église. Sœur Wixom, présidente générale de la primaire, dirigera cette réunion.
Sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion générale des femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes de tout cœur avec vous, où que vous soyez. Nous vous voyons par la pensée, fillettes, jeunes filles et femmes, rassemblées dans le monde entier, et nous espérons que vous ressentez l'amour que nous éprouvons pour chacune d'entre vous. Thomas S. Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Je m'appelle Rosemary M. Wixom, présidente générale de la primaire. Nous sommes reconnaissantes d'avoir le président Monson et ses conseillers, Henry B. Eyring et Dieter F. Uchtdorf, avec nous ce soir. Nous saluons aussi la présence de Jeffrey R. Holland et D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres, Christopher Golden des 70 et Gary E. Stevenson, évêque président de l'Église. Nous aimons ces frères, les soutenons et les remercions de l'appui qu'ils nous apportent. Les membres de la présidence de la Société de secours, des jeunes filles et de la primaire sont aussi présents sur l'estrade. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux membres du Bureau général de la Société de secours, de la primaire et des jeunes filles, et accueillons chaleureusement les membres du Bureau général des jeunes filles qui viennent du monde entier et qui sont avec nous pour la première fois. Nous sommes bénis de pouvoir servir ensemble dans cette grande œuvre. La musique de ce soir sera interprétée par un chœur composé de fillettes de la primaire, des jeunes filles et de sœurs de la Société de secours de pieux des régions de Magna, Salt Lake Hunter et Taylorsville en Utah, sous la direction de Erin Pike-Toll, avec Linda Bargetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « On this day of joy and gladness ». Ensuite, Dora M. Cabela, membre du Bureau général des jeunes filles d'Afrique du Sud, fera la prière d'ouverture.
Our Father,
notre Père, qui est aux cieux, nous sommes très reconnaissantes d'être réunies devant toi maintenant. Nous sommes reconnaissantes de l'occasion que tu nous as donnée de venir et d'en apprendre davantage sur toi. Nous sommes reconnaissantes pour ce beau bâtiment. Nous sommes reconnaissantes pour notre fraternité et pour toutes les sœurs qui se sont jointes à nous, qui nous regardent et nous écoutent au moyen de toutes sortes d'appareils technologiques. Nous les aimons, Père. Nous sommes reconnaissantes pour le sacrifice expiatoire de ton Fils, Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissantes pour les dirigeantes générales des sœurs. Nous te demandons de les bénir et de les protéger. Nous sommes reconnaissantes pour nos prophètes, voyants et révélateurs. Nous te demandons, Père, d'étendre ta main et de les guider, de les protéger, de les fortifier. Nous aimons notre prophète Thomas S. Manson, nous le soutenons. Continue de le bénir. Maintenant, Père Céleste, nous te demandons de nous bénir particulièrement pour que nous ayons des oreilles qui écoutent et que nous puissions prêter attention à ce que nous entendrons à ce pupitre. Nous t'aimons, Père, et c'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant regarder un groupe d'enfants de la primaire de Séoul en Corée qui, sous la direction de Sœur Ko, interprétera le chant « Oh, j'aime voir le temple ». Il sera suivi de Linda K. Burton, présidente générale de la Société de secours. Après le discours de Sœur Burton, le chœur chantera un medley de « Je sais que mon Sauveur m'aime » et « Je sais qu'il vit mon Rédempteur ». Jean A. Stevens, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, prendra ensuite la parole.
Quand
notre fille cadette est rentrée de son premier jour d'école, je lui ai demandé « Comment ça s'est-il passé ?» Elle a répondu « C'était bien. » Mais le lendemain, quand je l'ai réveillée pour l'école, elle a croisé les bras et a dit fermement, « Je suis déjà allée à l'école. » Apparemment, je ne l'avais pas préparée ou on ne lui avait pas expliqué qu'aller à l'école, ce n'était pas un événement ponctuel, mais qu'il fallait qu'elle y aille 5 jours par semaine pendant de nombreuses, nombreuses années. Pendant que nous réfléchissons au principe de préparation, imaginez avec moi la scène suivante. Vous êtes assise dans la salle céleste du temple et vous remarquez plusieurs jeunes couples qui attendent pour être mariés pour le temps et l'éternité et que l'on fait respectueusement entrer et sortir. Une jeune mariée entre dans la salle céleste, main dans la main avec son bien-aimé. Elle porte une robe du temple, simple et belle. Elle arbore un sourire calme, paisible et chaleureux. Elle est très soignée, mais n'attire pas l'attention. Elle s'assoit, jette des regards autour d'elle, puis elle est soudain envahie par l'émotion. Il semble que ses larmes sont dues à l'émerveillement et la révérence qu'elle a pour le lieu et l'ordonnance sacrée qui les attend, l'amour de sa vie et elle. Son attitude semble dire, « Comme je suis reconnaissante d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui, prête à commencer un voyage éternel avec mon compagnon bien-aimé. » Elle semble préparée pour bien plus qu'un événement. Récemment, notre chère petite fille adolescente m'a laissé une note sur mon oreiller qui disait, « Ce qui me frappe quand j'entre dans le temple, c'est l'esprit de paix et d'amour qui y règne. » Les gens peuvent y aller recevoir l'inspiration. Elle a raison. Nous pouvons recevoir l'inspiration et la révélation dans le temple et aussi le pouvoir d'affronter les difficultés de la vie. Ce qu'elle apprend concernant le temple en y apportant régulièrement des noms de ses ancêtres pour accomplir des baptêmes et des confirmations la prépareront à recevoir d'autres ordonnances, alliances et bénédictions du temple pour elle ainsi que pour les personnes de l'autre côté du voile. Russell L. Nelson a enseigné, de même que les temples sont préparés pour les gens, de même les gens doivent se préparer pour le temple. En ce moment, je relis l'histoire du capitaine Moroni dans le livre de Mormon. Et cela m'a rappelé que l'un de ses plus grands exploits a été la préparation minutieuse des Néphites à résister à la redoutable armée lamanite. Il a si bien préparé son peuple que nous lisons, voici, à leur extrême étonnement, ils étaient préparés à les recevoir d'une manière qu'on n'avait jamais connue. Cette phrase, préparée d'une manière qu'on n'avait jamais connue, a véritablement capté mon attention. Comment pouvons-nous mieux nous préparer pour les bénédictions sacrées du temple? Le Seigneur a enseigné, et de plus, je vais vous donner un modèle en toutes choses. Prenons un exemple que nous pouvons trouver dans les Écritures pour nous aider à mieux nous préparer. Pour se préparer face à l'ennemi, il a fallu à Moroni une diligence constante et fidèle, ce que nous devons également faire preuve. Je ne me lasse pas de la belle parabole que le Seigneur a racontée au sujet des 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Bien que cette parabole fasse allusion à la préparation pour la seconde venue du Sauveur, nous pouvons aussi la comparer à la préparation pour les bénédictions du Temple. qui sont un festin spirituel pour les personnes convenablement préparées. Dans Matthieu 25, nous lisons « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit, en particulier parmi les personnes au cœur tendre, qui ne ressentent pas de tristesse pour les jeunes filles folles. Et certaines d'entre nous auraient envie de dire aux autres jeunes filles, « Pouvez-vous donner de votre huile pour que l'on soit toutes heureuses ?» Mais réfléchissez un instant. Il s'agit d'une histoire que le Sauveur a racontée, et c'est lui qui a dit que 5 jeunes filles étaient folles et 5 étaient sages. Pendant que nous réfléchissons à cette parabole comme étant une préparation au temple, écoutons les paroles qu'un prophète de l'Église a enseignées. La préparation spirituelle ne peut pas se donner. Spencer W. Kimball a permis de clarifier la raison pour laquelle les cinq jeunes filles sages ne pouvaient pas donner de l'huile de leur lampe aux jeunes filles folles en ces termes. L'assistance aux réunions de Sainte-Seine ajoute de l'huile à notre lampe, goutte à goutte, au cours des années. Le jeûne, la prière en famille, l'enseignement au foyer, la maîtrise des appétits physiques, la prédication de l'Évangile, l'étude des Écritures, chaque acte de dévouement et d'obéissance est une goutte ajoutée à notre réserve. Les actes de gentillesse, le paiement des offrandes et de la dîme, les pensées et actes chastes, tout cela contribue aussi de manière importante à la réserve d'huile qui nous servira au milieu de la nuit à remplir notre lampe vide. Voyez-vous le schéma de préparation, goutte à goutte, qui peut nous aider quand nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons être plus diligents dans notre préparation à recevoir les ordonnances sacrées pour nous et d'autres personnes? Quelles sont les autres petites choses simples que nous pourrions faire pour ajouter de précieuses gouttes spirituelles à notre lampe de préparation? Richard G. Scott a dit « La dignité personnelle est une condition essentielle pour profiter des bénédictions du Temple. Une personnalité digne est forgée par une vie faite de choix corrects, constamment centré sur les enseignements du Maître. J'aime cet adverbe « constamment ». Être constant signifie être digne de confiance. Quelle belle description du principe de dignité. Dans le dictionnaire de la Bible, on nous rappelle que seul le foyer peut se comparer au temple par son caractère sacré. Notre maison ou notre appartement correspond-il à cette description? Une adorable jeune fille de notre paroisse est venue chez nous récemment. Sachant que son frère venait de rentrer de mission, je lui ai demandé ce que ça lui faisait de la voir à nouveau à la maison. Elle a dit qu'elle en était heureuse, mais que de temps en temps, il demandait si l'on pouvait baisser la musique. Elle a ajouté, et ce n'était même pas de la mauvaise musique. Il pourrait être utile pour nous que nous nous évaluions maintenant et ensuite que nous nous assurions que notre foyer est un lieu où nous sommes préparés à ressentir l'Esprit. En préparant notre foyer à être un lieu propice à la présence de l'Esprit, nous serons prêtes à nous sentir plus comme à la maison quand nous entrons dans la maison du Seigneur. Si nous nous préparons à entrer dignement dans le temple et sommes fidèles aux alliances que nous y contractons, le Seigneur nous accordera une multiplicité de bénédictions. Mon excellente amie Bonnie Oscarson a récemment inversé l'ordre des mots d'un verset des Écritures quand elle a dit « car on donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup demandé ». Je suis entièrement d'accord. Étant donné que nous allons au temple pour recevoir les bénédictions éternelles, nous ne devrions pas être surpris que l'on nous demande plus pour les mériter. Frère Nelson a enseigné « le temple étant la maison du Seigneur, les conditions d'admission sont fixées par lui. On entre au temple en invité du Seigneur. Détenir une recommandation à l'usage du temple est un privilège sans prix et un signe tangible d'obéissance à Dieu et à ses prophètes. Les athlètes de niveau mondial et les étudiants au doctorat se préparent pendant des heures, des jours, des semaines, des mois et voire même des années. Il leur faut des gouttes de préparation quotidienne afin d'atteindre leur meilleur niveau. De même, les personnes qui veulent se qualifier pour l'exaltation dans le royaume céleste doivent atteindre un niveau d'obéissance plus élevé qui s'acquiert par la mise en pratique de la vertu de l'obéissance jour après jour et goutte à goutte. En ajoutant constamment et diligemment de l'huile, goutte à goutte, à notre lampe spirituelle, en faisant ces petites choses simples, notre lampe sera prête et allumée grâce à une préparation étonnante. Mon mari, qui est président de Pieux, m'a récemment fait remarquer qu'il reconnaissait toujours une personne préparée et digne d'aller au temple parce qu'elle illumine la pièce lorsqu'elle vient pour son entretien. Dans la prière de consécration du temple de Kirtland, Joseph Smith, le prophète, a demandé au Seigneur que tous ceux qui passeront le seuil de la maison du Seigneur sentent ta puissance, croissent en toi, reçoivent une plénitude du Saint-Esprit et se préparent à recevoir tout ce qui est nécessaire. Je prie pour qu'aller au temple soit pour nous davantage qu'un événement ponctuel. Puissions-nous nous préparer dignement à recevoir goutte à goutte les ordonnances salvatrices et à respecter de tout notre cœur les alliances qui leur sont associées. Je sais que, ce faisant, nous nous qualifierons pour recevoir les bénédictions promises qui sont une plénitude du Saint-Esprit et le pouvoir du Seigneur dans notre foyer, dans notre vie personnelle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chères sœurs, je vous salue, le cœur débordant d'amour. J'espère qu'en ce moment même, où que vous soyez dans le monde, vous ressentez l'amour du Seigneur pour vous personnellement et l'Esprit qui rend témoignage à votre cœur du message chanté par ce beau cœur. J'ajoute mon témoignage au sien. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'il aime chacune de nous. Ce soir, nous sommes rassemblés entre femmes de l'Alliance de Dieu. Notre âge, notre situation et notre personnalité ne peuvent pas nous diviser, parce que, par-dessus tout, nous sommes à Lui. Nous avons fait alliance de toujours nous souvenir de Son Fils. Il y a 3 semaines, en assistant à un service de baptême, j'étais frappée par le pouvoir de cette alliance individuelle. Il y avait là, assis devant moi, 8 beaux enfants qui se réjouissaient avec révérence que leur jour spécial soit enfin arrivé. Mais en regardant leur visage joyeux, je n'ai pas vu qu'un groupe d'enfants. Je les ai vus comme je pense que le Seigneur les voit, individuellement. J'ai vu Emma, Sophie, Yann, Logan, Adam, William, Sophie et Mika. Chaque alliance de baptême s'accomplit une par une. Chacun était habillé de blanc, prêt et disposé dans son cœur d'enfant de 8 ans à faire sa première alliance avec Dieu. Rappelez-vous et revoyez-vous le jour de votre propre baptême. Que vous vous souveniez de nombreux détails ou juste de quelques-uns, essayez de ressentir aujourd'hui l'importance de l'alliance que vous avez faite personnellement. On vous a appelé par votre nom, on vous a immergé dans l'eau, et quand vous êtes ressortie, vous étiez sa fille, une fille de l'Alliance, disposée à prendre sur vous le nom de son Fils et à promettre de le suivre et d'obéir à ses commandements. Les alliances avec Dieu nous aident à savoir qui nous sommes réellement. Elles nous relient à Lui d'une manière personnelle, dans laquelle nous prenons conscience de notre valeur à ses yeux et de notre place dans son royaume. D'une façon que nous ne pouvons pas comprendre complètement, il nous connaît, nous aime individuellement. Imaginez, chacune de nous a ce genre de place dans son cœur. Ce qu'il désire, c'est que nous choisissions le chemin qui nous ramènera auprès de lui. Aussi essentielle et importante que soit l'ordonnance du baptême, elle n'est que le commencement, la porte qui nous met sur le chemin de la vie éternelle. Plus loin dans notre parcours, il y a des alliances du temple à contracter, des ordonnances de la prêtrise à recevoir. Comme nous le rappelle David Bednar, lorsque nous nous tenons dans les eaux du baptême, notre regard se porte vers le temple. Ce n'est pas seulement en contractant des alliances, mais aussi en les respectant fidèlement que nous nous préparons à recevoir la vie éternelle. C'est notre espérance, notre but et notre joie. J'ai été témoin oculaire du pouvoir des alliances en observant mes parents, des personnes justes qui aimaient et vivaient l'Évangile. Chez ma gentille maman, j'ai eu l'occasion de voir clairement les décisions quotidiennes d'une fille de l'Alliance de Dieu. Même lorsqu'elle était jeune, ses choix reflétaient ses priorités et montraient qu'elle était un véritable disciple de Jésus-Christ. J'ai vu la paix, le pouvoir et la protection se manifester dans sa vie grâce aux alliances qu'elle faisait et respectait en cours de route. Sa vie sur terre était le reflet de son amour pour le Sauveur et de son désir de le suivre. Son modèle est celui que je veux suivre. La vie commune de mes parents a commencé de façon inhabituelle. C'était en 1936. Ils se fréquentaient sérieusement et projetaient de se marier lorsque mon père a reçu une lettre dans laquelle on lui demandait de faire une mission à plein temps en Afrique du Sud. La lettre disait que, s'il était digne et désireux de servir, il devait prendre contact avec son évêque. Ah, on voit bien que la façon d'être appelé en mission à l'époque était très différente. Mon père a montré la lettre à sa bien-aimée Hélène et ils ont décidé sans hésitation qu'il partirait. Pendant les 2 semaines qui ont précédé son départ, ils se sont vus chaque jour pour un déjeuner pique-nique au Memory Grove, près
près du centre-ville de Salt Lake City. Au cours d'un de leurs déjeuners, après avoir cherché à être guidée en jeûnant et en priant, ma mère a dit à son cher Clarence que s'il le souhaitait toujours, elle l'épouserait avant son départ. Dans les premiers temps de l'Église, les hommes étaient parfois appelés en mission et laissaient derrière eux femmes et enfants. Ça a été le cas de ma mère et de mon père. Avec l'accord des dirigeants de la prêtrise, ils ont décidé de se marier avant qu'ils partent en mission. Dans le temple de Salt Lake, ma mère a reçu sa dotation. Et ensuite, ils ont été mariés pour le temps et pour toute l'éternité par David O'Mackay. Ils ont eu d'humbles débuts. Il n'y avait pas de photos, pas de belles robes de mariée, pas de fleurs et pas de réception pour célébrer l'occasion. Ils étaient clairement centrés sur le temple et sur leurs alliances. Les alliances étaient tout pour eux. Après seulement 6 jours de mariage et des adieux pleins de larmes, mon père est parti pour l'Afrique du Sud. Mais leur mariage était bien plus que l'amour profond qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Ils aimaient aussi le Seigneur et désiraient le servir. Les ordonnances sacrées du temple qu'ils avaient contractées leur ont donné la force et le pouvoir de tenir pendant les 2 années de séparation. Ils avaient une perspective éternelle du but de la vie et des bénédictions promises aux personnes qui sont fidèles à leurs alliances. Toutes ces bénédictions dépassaient leurs sacrifices et leurs séparations à court terme. Bien que cela n'ait certainement pas été une manière facile de commencer leur vie conjugale, cela s'est révélé être une façon idéale de jeter les bases d'une famille éternelle. Quand les enfants sont arrivés, nous savions ce qui comptait le plus pour nos parents. C'était leur amour pour le Seigneur et leur engagement indéfectible de respecter les alliances qu'ils avaient contractées. Mes parents sont morts tous les deux, mais leur modèle de justice continue d'être une bénédiction pour notre famille. L'exemple de leur vie est illustré par les paroles de Linda Burton. La meilleure façon de fortifier un foyer, présent ou à venir, est d'honorer nos alliances. Leurs difficultés et leurs épreuves n'étaient pas terminées. 3 ans après son retour de mission, la Deuxième Guerre mondiale faisait rage et comme beaucoup d'autres personnes, mon père s'est engagé dans l'armée. Il a été absent 4 années de plus en raison de son service dans la marine à bord de bateaux de guerre dans le Pacifique. Cette autre séparation a été une période difficile pour mes parents. Mais pour ma mère, ces jours de solitude, d'inquiétude et d'incertitude ont aussi été marqués par les murmures de l'Esprit qui lui parlait de promesses éternelles et lui apportait réconfort et paix au milieu de la tempête. Malgré ces difficultés, ma mère avait une vie épanouie, remplie de bonheur, de joie, d'amour et de service. Son amour pour le Sauveur se voyait dans sa façon de mener sa vie. Elle avait une communication remarquable avec les cieux, le don et la capacité d'aimer et de faire du bien à toutes les personnes autour d'elle. Sa foi en Dieu et son espérance en ses promesses étaient illustrées par l'un de ses passages scripturaires préférés qu'elle nous a enseignés. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. À toutes les époques de sa vie, ma mère a été fortifiée et bénie par son amour pour le Seigneur et par les alliances qu'elle avait fidèlement faites et honorées. Il ne fait aucun doute que les détails de votre histoire seront différents des siens, mais les principes tirés de sa vie s'appliquent à nous toutes. Quand les filles de Dieu se concentrent sur le temple et sur leurs alliances sacrées, Dieu est capable de leur envoyer des bénédictions de façon personnelle et puissante. Comme l'exemple de ma mère l'a fait pour moi, votre choix de croire et de respecter vos alliances laissera à ceux qui vous suivront un bel héritage de foi. Donc, chères sœurs, comment pouvons-nous accéder au pouvoir et aux bénédictions des alliances du Temple? Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour nous préparer à ces bénédictions? Dans mes déplacements, j'ai découvert qu'il y a des sœurs de tout âge, de toute situation, dont la vie fournissait la réponse à ces questions. J'ai rencontré Marie peu après son 8e anniversaire. Comme beaucoup, elle était heureuse de faire de l'histoire familiale et a fourni plus de 1000 noms pour l'œuvre du Temple. Elle se prépare déjà pour avoir la bénédiction d'aller au Temple quand elle aura 12 ans. Brianna a 13 ans et elle a relevé le défi lancé par Neil Anderson concernant le Temple. Elle a préparé des centaines de noms pour l'œuvre du Temple. Et elle a fait participer sa famille et ses amis avec elle au baptême. Dans cette œuvre sacrée, le cœur de Brianna ne se tourne pas seulement vers ses pères terrestres, mais aussi vers son Père céleste. Anfissa est une jeune adulte occupée qui travaille et fait des études de troisième cycle. Néanmoins, elle prend le temps d'aller au temple chaque semaine. Elle recherche la révélation et trouve la paix quand elle va dans la maison du Seigneur. Katia, une chère sœur qui vit en Ukraine, a un amour profond du temple. Avant que le temple de Kiev soit construit, elle et d'autres membres de sa branche devaient faire un voyage coûteux de 36 heures en autocar pour se rendre une fois par an au temple en Allemagne. Pendant le trajet, ces saints dévoués étudiaient les Écritures, chantaient des cantiques et discutaient de l'Évangile. Katia m'a dit, quand nous arrivions enfin au temple, nous étions prêts à recevoir ce que le Seigneur avait à nous donner. Si nous voulons recevoir toutes les bénédictions que Dieu offre si généreusement, notre chemin terrestre doit nous mener au temple. Les temples sont une expression de l'amour de Dieu. Il nous invite tous à y aller, à apprendre de lui, à sentir son amour et à recevoir les ordonnances de la prêtrise nécessaires à la vie éternelle auprès de lui. Chaque alliance s'accomplit une par une. Chaque grand changement de cœur compte aux yeux du Seigneur. Et cela fera toute la différence pour vous, car lorsque nous allons dans sa sainte maison, nous pouvons être armés de son pouvoir, avoir son nom sur nous, être entourés de sa gloire et être sous la protection de ses anges. Je témoigne que notre Père Céleste est en vie. C'est grâce à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que chaque espoir, chaque promesse et chaque bénédiction du Temple s'accomplit. Je prie pour que nous ayons la foi de mettre notre confiance en lui et en ses alliances. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous allons maintenant regarder une présentation vidéo de femmes, de jeunes filles et de fillettes du monde entier qui rendent témoignage du Temple et des bénédictions et de la force qu'elles ont reçue. Après la présentation, nous entendrons Neil F. Marriott, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles.
Cette recommandation à l'usage du temple a été une grande bénédiction dans ma vie.
Plus nous irons au temple, plus nous apprendrons. Le Seigneur nous révélera davantage de vérité.
Mon mari et moi avons été scellés dans le temple de Hong Kong il y a 5 ans. Ce qui nous a été enseigné dans le temple est devenu un bouclier dans notre vie.
Avec les jeunes filles, nous nous sommes fixés le but d'aller au temple une fois par semaine cette année.
Chaque semaine, cela commence à 1h du matin le samedi, quand nous partons pour le temple et arrivons à 6h à Buenos Aires. Nous travaillons toute la journée jusqu'à 18h. Nous rapportons la paix du temple dans nos activités quotidiennes.
Dans ma vie quotidienne, il me semble que je suis toujours pressée, mais quand j'arrive dans le temple, je me sens calme et paisible.
Le temple est très important pour moi parce que la première fois que j'y suis allée, j'ai senti le Saint-Esprit.
Pour ma première visite au temple, je me suis préparée et j'ai épargné de l'argent chaque mois. Je me suis également préparée afin d'être digne spirituellement.
Quand je suis entrée dans le temple, j'ai su que c'était la maison du Seigneur.
Je témoigne que le temple est la source du bonheur, je le sais.
Le temple était magnifique, j'avais l'impression de ne plus être sur terre, je me croyais au ciel.
Pendant que j'y étais, j'avais l'impression d'être très loin de mes problèmes et très proche de mon Père Céleste.
Quand nous sommes entrés dans la salle de scellement et avons vu nos parents, et quand nous nous sommes agenouillés ensemble, je n'avais rien ressenti d'aussi beau de ma vie. Nous avons été scellés pour toute l'éternité.
J'avais 10 ans quand ma mère est décédée du cancer. C'était très dur. Mais quand les missionnaires ont commencé à m'apprendre que les familles pouvaient être scellées dans le temple, j'ai absolument voulu m'y rendre. La première fois que je suis allée au temple, c'était extraordinaire. J'ai ressenti l'esprit plus fort que jamais. J'ai apporté le nom de ma mère et j'ai eu l'impression qu'elle me souriait et me disait « Merci beaucoup de faire cela ».
Le temple aide les familles à être unies. Et quand nous sommes tous ensemble, nous pouvons progresser encore plus vite en nous entraidant spirituellement.
En allant au temple, j'ai pu être réconfortée dans les moments de besoin et même de désespoir. J'ai organisé la garde de mes enfants et j'ai fait le voyage seule. Je savais que notre Père Céleste avait un plan et des réponses pour moi.
Quels que soient vos problèmes, vos difficultés, vos maladies, lorsque vous irez au temple, vous serez revigorée et régénérée. Vous vous sentirez heureuse, vous sentirez les bénédictions que je ne peux pas exprimer maintenant.
J'ai perdu 6 enfants le 12 janvier. Je me rappelle quand le tremblement de terre s'est produit. Je faisais la lessive et les enfants étaient assis dehors, près de la porte. La maison à côté de nous, qui était sur un terrain plus élevé, s'est écroulée. Elle est tombée sur les enfants. Quand je suis allée au temple pour la première fois, j'ai ressenti fortement l'esprit et j'ai su que j'étais vraiment dans la maison du Seigneur. Je me suis sentie bien. Malgré la perte de mes enfants, je ne me suis pas sentie mal. Ça allait. Je sais que je dois persévérer pendant quelque temps sur terre, mais un jour, je serai réunie à ma famille éternelle. J'y crois.
Une fois que nous sommes entrés dans le temple, les bénédictions continuent à se déverser tout au long de notre vie. Alors, ne cessons pas de nous diriger vers le temple.
Avez-vous aimé cette vidéo autant que moi? Avez-vous pu ressentir les bénédictions du temple enveloppant la terre? La fraternité des sœurs? J'ai beaucoup aimé. Ce soir, je vais évoquer deux responsabilités importantes qui sont les nôtres. Premièrement, ajouter constamment la lumière de l'Évangile à notre vie. Et deuxièmement, faire bénéficier les autres de cette lumière. Sœurs, savez-vous à quel point vous êtes importante? Chacune de vous, en ce moment même, est précieuse et essentielle dans le plan du salut de notre Père Céleste. Nous avons une œuvre à accomplir. Nous connaissons la vérité de l'Évangile rétabli. Sommes-nous prêtes à défendre cette vérité? Nous devons la vivre. Nous devons la transmettre. Nous devons défendre fermement notre foi et élever notre voix pour proclamer la véritable doctrine. Dans le numéro du Liaona de septembre 2014, M. Russell Ballard dit « Nous avons besoin davantage des voix distinctes et influentes et de la foi des femmes. Nous avons besoin qu'elles apprennent la doctrine et comprennent ce que nous croyons afin qu'elles puissent rendre témoignage de la vérité de toutes choses. Sœurs, vous fortifiez ma foi en Jésus-Christ. J'ai observé votre exemple, entendu votre témoignage et ressenti votre foi du Brésil au Botswana. Vous emportez avec vous un cercle d'influence partout où vous allez. Les gens qui vous entourent le ressentent. Votre famille, les contacts qui sont dans votre téléphone portable, vos amis sur les réseaux sociaux et les personnes assises à côté de vous ce soir. Je suis d'accord avec Harriet Wurdorf quand elle écrit « Vous êtes des phares vibrants et enthousiastes dans un monde de plus en plus sombre lorsque vous montrez par votre façon de vivre que l'Évangile est un message joyeux. » Président Thomas S. Monson a déclaré « Si l'on veut apporter de la lumière aux autres, on doit soi-même rayonner. » Comment pouvons-nous faire pour que la lumière de la vérité rayonne constamment en nous? Parfois, j'ai l'impression d'être une ampoule de lumière tamisée. Comment puis-je briller davantage? Les Écritures enseignent, ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Nous devons persévérer en Dieu, comme il est dit dans les Écritures. Nous devons aller à la source de lumière, notre Père céleste et Jésus-Christ. Nous pouvons aussi aller au temple, sachant que tout ce qui s'y trouve fait référence au Christ et à son grand sacrifice expiatoire. Réfléchissez aux effets que les temples ont sur les environs. Ils embellissent des zones urbaines. Ils brillent sur des collines détachées. Pourquoi embellissent-ils et brillent-ils? Parce que, comme disent les Écritures, la vérité brille et les temples renferment la vérité et des desseins éternels. Et il en est de même pour vous. En 1877, le président George Q. Cannon a déclaré « Chaque temple diminue le pouvoir de Satan sur la terre. Je suis persuadé que partout où un temple est érigé, les ténèbres reculent. Le but du temple est de servir l'humanité et de donner à tous les enfants de notre Père Céleste la capacité de retourner vivre avec lui. Notre but n'est-il pas similaire à celui de ces bâtiments consacrés ? Ces maisons du Seigneur, n'est-il pas de servir nos semblables, de les aider à repousser les ténèbres et de retourner à la lumière de notre Père Céleste? L'œuvre sacrée du Temple augmentera notre foi en Christ et ensuite nous pourrons avoir une meilleure influence sur la foi d'autres personnes. Grâce à l'esprit du Temple qui nous sustente, nous pouvons apprendre la réalité, le pouvoir et l'espérance de l'expiation du Sauveur dans notre vie personnelle. Il y a quelques années, notre famille a rencontré un problème grave. Je suis allée au temple et j'ai prié avec ferveur pour recevoir de l'aide. Il m'a été donné de connaître un moment de vérité. J'ai reçu une inspiration claire de mes faiblesses et j'en ai été stupéfaite. Dans ce moment, spirituellement instructif, j'ai vu une femme orgueilleuse qui agissait à sa manière, pas nécessairement à la manière du Seigneur, et qui, dans son fort intérieur, s'octroyait les mérites de ses prétendus accomplissements. Je savais qu'il s'agissait de moi. J'ai imploré mon Père Céleste, lui disant, « Je ne veux pas être cette femme, mais comment puis-je changer ?» Grâce au pur esprit de révélation que j'ai ressenti dans le temple, j'ai appris que j'avais absolument besoin d'un rédempteur. Je me suis immédiatement tournée vers le Seigneur, Jésus-Christ, et j'ai vu mon angoisse s'évanouir et une grande espérance envahir mon cœur. Il était mon seul espoir, et je désirais me cramponner uniquement à lui. Il était clair à mes yeux qu'une femme égocentrique, naturelle, est ennemie de Dieu et des gens qui sont dans sa sphère d'influence. Au temple, ce jour-là, j'ai appris que ce n'est pas que par l'expiation de Jésus-Christ que ma nature orgueilleuse pouvait changer et que la capacité de faire le bien me serait donnée. J'ai vivement ressenti son amour et j'ai su qu'il m'instruirait par l'esprit et me changerait si je lui donnais mon cœur sans rien retenir. Je combats encore mes faiblesses, mais j'ai confiance dans l'aide divine de l'expiation. J'ai reçu cet enseignement pur parce que je suis allée dans le Saint-Temple à la recherche de soulagement et de réponse. J'étais accablée en y entrant et j'en suis repartie, sachant que j'avais un Sauveur tout-puissant J'étais plus légère et joyeuse parce que j'avais reçu sa lumière et accepté le plan qu'il a pour moi. Répartis dans le monde entier, les temples ont chacun un aspect et une conception extérieure unique, mais à l'intérieur se trouvent en tous la même lumière, le même dessein et la même vérité éternelle. Dans 1 Corinthiens 3,16, nous lisons « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» En tant que filles de Dieu, nous sommes nous aussi répartis dans le monde entier, et chacune de nous, comme les temples, a son aspect extérieur unique. Nous avons également une lumière spirituelle en nous. Cette lumière spirituelle est le reflet de la lumière du Sauveur. D'autres personnes seront attirées par cet éclat. Nous avons notre propre rôle sur la terre, en commençant par celui de fille, puis de mère, de dirigeante, d'instructrice, de sœur, de salariée, de femme et plus. Chacun exerce une influence. Chaque rôle s'accompagne de puissance morale lorsque se reflètent les vérités de l'Évangile et les alliances du Temple dans notre vie. D. Todd Christofferson a dit, « Quoi qu'il en soit, une mère peut exercer une influence que personne d'autre ne peut égaler dans aucune autre relation. » Quand nos enfants étaient jeunes, j'avais l'impression d'être, avec mon mari David, le commandant en second de navire, et je me représentais nos enfants comme une flottille de petits bateaux, s'agissant autour de nous dans le port, se préparant à voguer sur les mers du globe. David et moi éprouvions le besoin de consulter chaque jour le compas du Seigneur pour trouver le meilleur cap de navigation avec notre petite flotte. Mes journées étaient remplies de choses ordinaires, comme plier le linge, lire des livres d'enfants et préparer le dîner. Parfois, dans le port qu'est notre foyer, nous ne pouvons pas voir qu'à travers ces gestes simples, constants, notamment la prière en famille, l'étude des Écritures et la soirée familiale, il s'accomplit de grandes choses. Mais je témoigne que ces actes même ont une importance éternelle. Nous éprouvons une grande joie lorsque ces petites embarcations, nos enfants, grandissent et deviennent des vaisseaux de ligne remplis de la lumière de l'Évangile et prêts à prendre la mer au service de Dieu. Nos petits actes de foi et de service sont la façon dont la plupart d'entre nous peuvent continuer en Dieu et apporter finalement la lumière et la gloire éternelle à leur famille, à leurs amis et à leur fréquentation. Oui, vous pouvez emporter. Je suis perdue. Pensez à l'influence que la loi d'une fillette de la primaire peut avoir sur sa famille. La foi de notre fille a été une bénédiction pour notre famille le jour où notre jeune fils s'est perdu dans un parc d'attractions. La famille courait frénétiquement partout à sa recherche. Après un moment, notre petite fille de 9 ans m'a dit en me secouant le bras, « Maman, est-ce qu'on ne devrait pas prier ?» Elle avait raison. Notre famille s'est regroupée au milieu d'une foule de badauds et nous avons prié afin de retrouver notre enfant. Nous l'avons retrouvé. À toutes les fillettes de la primaire, je dis, « S'il vous plaît, continuez d'en rappeler à vos enfants de prier. » Cet été, j'ai eu l'honneur d'assister à un camp de 900 jeunes filles en Alaska. Elles ont eu une influence profonde sur moi. Elles sont allées au camp préparées spirituellement, ayant lu le livre de Mormon et mémorisé le Christ vivant, le témoignage des apôtres. Le troisième soir du camp, les 900 jeunes filles se sont levées et ont récité ensemble le texte entier par cœur. L'esprit remplissait la grande salle et j'avais très envie de me joindre à elles, mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas payé le prix en apprenant le texte. J'ai commencé à apprendre les paroles du Christ vivant, comme l'ont fait ses sœurs. Et grâce à leur influence, en répétant sans cesse le témoignage du Christ qu'ont rendu les apôtres, je ressens plus pleinement l'alliance de la Sainte Cène de me souvenir du Sauveur. Elle prend pour moi une signification plus profonde.
My hope is to offer the Savior a Christmas gift this year of having the living Christ memorized and secure.
Cette année, j'espère offrir au Sauveur un cadeau de Noël d'avoir mémorisé et ancré dans mon cœur le Christ vivant avant le 25 décembre. J'espère pouvoir être une bonne influence comme les sœurs d'Alaska en ont été une pour moi. Est-ce que vous vous retrouvez dans les paroles suivantes du texte du Christ vivant? Il a demandé instamment à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les routes de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles et ressuscitant les morts. Nous, sœurs de l'Église, ne parcourons pas les routes de Galilée en guérissant les malades, mais nous pouvons prier pour recevoir l'amour guérisseur et l'appliquer à une relation tendue, mal en point. Nous ne rendrons pas la vue aux aveugles comme le Seigneur l'a fait, mais nous pouvons témoigner du plan du salut aux personnes aveugles spirituellement. Nous pouvons leur permettre de voir la nécessité du pouvoir de la prêtrise dans des alliances éternelles. Nous ne ressusciterons pas les morts comme l'a fait le Sauveur, mais nous pouvons leur permettre de recevoir des bénédictions en trouvant leur nom pour l'œuvre du Temple. Ensuite, nous les sortirons de leur prison d'esprit et leur offrirons le chemin de la vie éternelle. Je témoigne que nous avons un Sauveur vivant, Jésus-Christ, et qu'avec son pouvoir et sa lumière, nous serons capables de repousser les ténèbres du monde, de faire entendre la vérité que nous connaissons et d'influencer notre prochain pour qu'il aille au Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sisters, we thank you.
Sœurs, nous vous remercions de passer cette soirée avec nous. Nous vous aimons. Nous remercions le chœur du centre de conférence et celui des enfants de la primaire de Corée de la merveilleuse musique que nous avons entendue. Nous remercions également les personnes qui ont pris la parole et adressons nos remerciements à toutes celles qui ont contribué à la préparation de cette réunion d'une manière ou d'une autre. Le chœur et l'assemblée chanteront à présent le premier et le troisième couplet de « Je suis enfant de Dieu » sous la direction de Sœur Paiktol. Le chœur chantera le quatrième couplet. Après le cantique, nous aurons la bénédiction d'entendre Dieter F. Urkdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. À la fin des propos du président Urkdorf, le chœur terminera la réunion en chantant Let Zion in her beauty rise. Ensuite, amie Caroline White, membre de la Société de secours du 4e pieu des jeunes adultes seuls de Logan en Utah, fera la prière de clôture.
Thank you, sisters, for these,
merci, sœurs, pour ces messages forts et inspirants. Merci à ces beaux cœurs ici, au centre de conférence et en Corée. C'est magnifique quand des générations différentes de femmes unissent leurs voix pour nous bénir. Mes sœurs bien-aimées, mes chers amis et disciples bénis de Jésus-Christ, je suis honoré d'avoir l'occasion d'être avec vous à l'ouverture d'une nouvelle conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La semaine prochaine, la première présidence et les 12 apôtres se réuniront avec toutes les autorités générales et les dirigeants des auxiliaires générales, et les autres sessions de notre conférence générale mondiale auront ensuite lieu le samedi et le dimanche. Je remercie particulièrement notre prophète, le président Monson, le prophète de Dieu à notre époque, de m'avoir demandé de représenter la première présidence en m'adressant aux sœurs de l'Église. En réfléchissant à ce que je pourrais dire, j'ai repensé aux femmes qui ont façonné ma vie et m'ont aidé à surmonter les difficultés de la condition mortelle. Je suis reconnaissant à ma grand-mère qui, il y a des dizaines d'années, a décidé d'amener sa famille à une réunion de Sainte-Seine mormone. Je suis reconnaissant à sœur Hewig, sœur âgée allemande qui vivait seule et dont le nom signifie sœur éternelle. C'est elle qui a lancé cette invitation merveilleuse et courageuse à ma grand-mère. Combien je suis reconnaissant à ma mère qui a aidé ses 4 enfants à traverser la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense aussi à ma fille, à mes petites filles et aux générations futures de femmes fidèles qui suivront un jour. Et naturellement, je serai éternellement reconnaissant à ma femme Harriet, qui m'a charmé pendant mon adolescence, a supporté les fardeaux les plus lourds de notre jeune famille en tant que mère, qui est à mes côtés en tant qu'épouse et qui aime et chérit nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Elle a été la force de notre foyer dans les moments de joie et d'épreuve. Elle illumine la vie de tous ceux qui la connaissent. Enfin, je suis reconnaissant à vous toutes, millions de sœurs fidèles du monde entier qui faites tant pour édifier le royaume de Dieu. Je vous suis reconnaissant d'inspirer, soutenir et bénir de nombreuses façons les personnes qui vous entourent. Je suis heureux de me trouver parmi tant de filles de Dieu. Lorsque nous chantons « Je suis enfant de Dieu », les paroles nous touchent profondément. Lorsque nous méditons sur cette vérité, à savoir que nous sommes enfants de parents célestes, nous prenons profondément conscience de notre origine, de notre but sur terre et de notre destinée. Il est bon de vous souvenir que vous êtes à jamais enfants de Dieu. Cette connaissance vous aidera à traverser les moments les plus difficiles de votre vie et vous inspirera d'accomplir des choses remarquables. Cependant, il est aussi important de se rappeler que cette distinction de fille de parents éternels ne se gagne pas ni ne se perdra jamais. Vous êtes et resterez à jamais fille de Dieu. Votre Père Céleste a de grands objectifs pour vous, mais votre origine divine seule ne vous garantit pas un héritage divin. Dieu vous a envoyé ici pour vous préparer à un avenir plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Les bénédictions de Dieu promises aux fidèles sont glorieuses et inspirantes. Ce sont, entre autres, des trônes, des royaumes, des principautés, des puissances, des dominations, toutes les hauteurs et profondeurs. Et il faut plus qu'un acte de naissance spirituelle ou qu'une carte d'adhérent du club Enfant de Dieu pour être digne de recevoir ces bénédictions incompréhensibles. Comment pouvons-nous les obtenir? Le Sauveur a répondu à cette question à notre époque. Si tu ne respectes pas ma loi, tu ne pourras pas atteindre cette gloire, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à l'exaltation. Recevez donc ma loi. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut suivre le chemin du disciple. On parle de l'obéissance au commandement de Dieu. On parle de vivre l'Évangile avec joie, de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. Et pourtant, certains d'entre nous ne considèrent pas toujours l'obéissance au commandement de Dieu avec joie. Soyons honnêtes. Certains commandements peuvent sembler plus difficiles ou moins attrayants. On les considère avec autant d'enthousiasme qu'un enfant devant une assiette de légumes qui sont bons pour sa santé, mais qu'il déteste. On serre les dents et l'on se force à obtempérer afin de pouvoir passer à des activités plus séduisantes. Dans ces moments-là, on se surprend peut-être à poser la question « Faut-il vraiment obéir à tous les commandements de Dieu ?» Ma réponse à cette question est simple. Je crois que Dieu sait quelque chose que nous ne savons pas. Des choses qui dépassent notre entendement. Notre Père Céleste est un être éternel dont l'expérience, la sagesse et l'intelligence sont infiniment plus grandes que les nôtres. En outre, il est éternellement aimant, compatissant et concentré sur un objectif divin, réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. En d'autres termes, non seulement il sait ce qui est le mieux pour vous, mais il désire aussi profondément que vous choisissiez ce qui est le mieux pour vous. Si vous y croyez intimement, si vous croyez véritablement que la grande mission de notre Père Céleste consiste à exalter et à glorifier ses enfants et qu'il sait mieux que quiconque comment y parvenir, n'est-il pas logique d'adopter et de suivre ses commandements, même ceux qui semblent difficiles? Ne devrions-nous pas chérir les signaux lumineux qu'il a placés pour nous aider à traverser les ténèbres et les épreuves de la condition mortelle? Ils indiquent le chemin qui ramène à notre foyer céleste. En choisissant le chemin de notre Père Céleste, vous posez, en tant que fille de Dieu, les fondements divins de votre progression personnelle, qui seront une bénédiction pour vous pendant toute votre vie. Je crois que nos difficultés viennent en partie de ce que nous imaginons que Dieu a enfermé toutes ses bénédictions dans un grand nuage au ciel et qu'il refuse de nous les donner si nous ne respectons pas les exigences strictes et paternalistes qu'il a fixées. Mais les commandements ne sont pas du tout comme cela. En réalité, notre Père Céleste fait constamment pleuvoir ses bénédictions sur nous. Ce sont nos peurs, nos doutes et nos péchés qui, comme un parapluie, les empêchent de nous atteindre. Ces commandements sont les directives aimantes et les divines qui nous permettent de refermer le parapluie afin que nous recevions la pluie de bénédictions célestes. Nous devons accepter le fait que les commandements de Dieu ne sont pas juste une longue liste de bonnes idées. Ce ne sont pas des astuces qui vous facilitent le quotidien et que vous trouvez sur un blog Internet, ni des citations inspirantes sur un tableau Pinterest. Ce sont des conseils divins fondés sur des vérités éternelles, donnés pour apporter la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Nous avons donc un choix à faire. Il y a d'un côté l'opinion du monde avec ses théories qui changent sans cesse et ses motivations douteuses. Il y a, de l'autre côté, la parole de Dieu à ses enfants, sa sagesse éternelle, ses promesses sûres et ses directives aimantes pour retourner en sa présence dans la gloire, l'amour et la majesté. Le choix vous appartient. Le Créateur des mers, du sable et des étoiles infinies vous tend la main aujourd'hui même. Il offre la magnifique recette du bonheur, de la paix et de la vie éternelle. Pour avoir droit à ces bénédictions glorieuses, vous devez vous humilier, exercer votre foi, prendre sur vous le nom du Christ, le rechercher en parole et en acte, et prendre la résolution d'être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux. Une fois que vous comprenez la véritable nature de Dieu et de ses commandements, vous comprenez mieux votre propre nature et la raison divine de votre existence. Avec cette compréhension, votre motivation de suivre les commandements change et devient le désir de votre cœur de vivre l'Évangile joyeusement. Par exemple, les personnes qui voient leur assistance à la réunion de Sainte-Seine comme leur moyen personnel d'augmenter leur amour pour Dieu, de trouver la paix, d'édifier les autres, de rechercher l'Esprit et de renouveler leur engagement de suivre Jésus-Christ, auront une expérience bien plus enrichissante que celle qui se contente de passer le temps assise sur un banc de l'Église. Sœurs, il est très important d'assister à nos réunions du dimanche. Mais je suis quasiment sûr que notre Père Céleste se préoccupe encore davantage de notre foi et de notre repentir que des statistiques d'assistance. Voici encore un exemple. Une mère seule de deux enfants en bas âge a récemment contracté la varicelle. Évidemment, ses enfants sont rapidement tombés malades eux aussi. C'était une tâche presque insurmontable pour cette jeune mère que de s'occuper seule d'elle-même et de ses petits. En conséquence, la maison, qui d'ordinaire était impeccable, était en désordre. La vaisselle sale s'empilait dans l'évier et le linge sale traînait partout. Tandis qu'elle s'efforçait, tant bien que mal, de s'occuper de ses enfants qui pleuraient et refoulait ses larmes, on frappa à la porte. C'étaient ses instructrices visiteuses. Elles ont vu la détresse de la jeune mère. Elles ont vu sa maison, sa cuisine. Elles ont entendu ses enfants pleurer. Si ses sœurs s'étaient préoccupées uniquement de faire les visites d'enseignement mensuelles qui leur étaient confiées, elles auraient pu donner à cette mère une assiette de biscuits, lui dire qu'elle leur avait manqué à la société de secours la semaine passée et dire quelque chose comme « Dites-nous si nous pouvons faire quelque chose pour vous ». Puis elle serait repartie joyeusement, reconnaissante d'avoir 100% un mois de plus. Heureusement, ces sœurs étaient de véritables disciples du Christ. Elles ont remarqué les besoins de leurs sœurs et ont mis leurs nombreux talents et leur expérience à son service. Elles ont rangé le désordre, apporté de la clarté et de la lumière dans la maison et appelé une amie pour qu'elle apporte des provisions dont la sœur avait besoin. Lorsqu'elles ont eu fini leur travail et qu'elles ont dit au revoir, la jeune mère était en larmes, des larmes de reconnaissance et d'amour. À partir de ce moment-là, l'opinion qu'elle se faisait des visites d'enseignement a changé. Elle a confié. Je sais que je ne suis pas simplement une croix dans une case à cocher sur la liste des choses à faire de quelqu'un d'autre. Oui, les instructrices visiteuses doivent effectuer fidèlement leur visite mensuelle, sans oublier la raison la plus importante que recouvre ce commandement, aimer Dieu et son prochain. Lorsque nous prenons les commandements de Dieu et notre tâche d'édifier son royaume comme une liste de choses à cocher une fois effectuées, nous passons à côté de ce que signifie être un bon disciple. Nous passons à côté de la progression qui découle de l'obéissance joyeuse au commandement de notre Père céleste. Emprunter le chemin du disciple ne doit pas forcément être une expérience pénible. C'est doux par-dessus tout ce qui est doux. Ce n'est pas un fardeau qui nous écrase. La voix du disciple élève notre esprit et allège notre cœur. Elle inspire en nous la foi, l'espérance et la charité. Elle nous remplit l'esprit de lumière lorsque nous sommes dans les ténèbres et de sérénité dans les moments de chagrin. Elle nous donne une puissance divine et une joie durable. Mes chères sœurs dans l'Évangile, que vous ayez 8 ans ou 108 ans, il y a une chose que j'espère que vous comprenez et savez véritablement. Et c'est qu'on vous aime. Vous êtes chers à vos parents célestes. Le Créateur infini et éternel de la lumière et de la vie vous connaît. Il se soucie de vous. Oui, Dieu vous aime, aujourd'hui même, et à jamais. Il n'attend pas que vous ayez surmonté vos faiblesses et vos mauvaises habitudes pour vous aimer. Il vous aime aujourd'hui avec une compréhension totale de vos épreuves. Il sait que vous tendez les bras vers lui dans des prières qui viennent du cœur et qui sont pleines d'espérance. Il est au courant des occasions où vous vous êtes raccroché à lumière faiblissante et avez cru. Même au milieu des ténèbres grandissantes, il est au courant de vos souffrances. Il est au courant de vos remords pour les fois où vous n'avez pas été à la hauteur ou avez échoué. Et il vous aime malgré cela. Dieu est au courant de vos succès, si petits qu'ils vous paraissent. Il s'en félicite et chérit chacun d'eux. Il vous aime pour votre ouverture aux autres. Il vous aime pour votre service et l'aide que vous apportez aux autres pour porter leur lourd fardeau, alors même que vous débattez au milieu des vôtres. Il sait tout sur vous. Il vous voit tel que vous êtes. Il vous connaît tel que vous êtes réellement. Et il vous aime aujourd'hui et à jamais. Croyez-vous que votre Père Céleste se soucie de savoir si votre maquillage, vos vêtements, votre coiffure et vos ongles sont parfaits? Croyez-vous que votre valeur à ses yeux change en fonction du nombre de vos fans sur Instagram ou Pinterest? Croyez-vous qu'il veut que vous fassiez du souci ou que vous déprimiez s'il y en a un qui ne veut plus être votre ami sur Facebook ou qui ne veut plus vous suivre sur Twitter? Croyez-vous que votre beauté extérieure, la taille de vos vêtements ou votre popularité change quoi que ce soit, votre valeur, aux yeux de celui qui a créé l'univers? Il vous aime non seulement pour ce que vous êtes aujourd'hui même, mais aussi pour l'être de gloire et de lumière que vous avez le potentiel et le désir de devenir. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, il veut que vous accomplissiez votre destinée, à savoir rentrer dans votre foyer céleste avec honneur. Je témoigne que le moyen d'y parvenir est de placer nos désirs égoïstes et nos ambitions indignes sur l'autel du sacrifice et du service. Sœurs, faites confiance au pouvoir salvateur de Jésus-Christ. Respectez ses lois et ses commandements. En d'autres termes, vivez l'Évangile joyeusement. Je prie pour que vous ressentiez une fois de plus et plus intensément l'amour merveilleux de Dieu, que vous trouviez la foi, la détermination et l'engagement d'apprendre les commandements de Dieu, de les chérir et de vivre l'Évangile joyeusement. Je vous promets que si vous le faites, vous découvrirez ce qu'il y a de meilleur en vous, votre moi véritable. Vous découvrirez ce que signifie véritablement être fille du Dieu éternel, Seigneur de toute justice. J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction d'apôtre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cher Père Céleste, nous venons devant toi à la fin de cette réunion pour, avec des cœurs remplis de gratitude, te remercier de la fraternité que nous avons ressentie à travers le monde en écoutant ces messages. Nous sommes aussi reconnaissants pour ces dirigeants et pour l'amour que nous avons ressenti. Nous te demandons de nous bénir tandis que nous tournons nos yeux vers le temple et nous sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu nous as données par ton évangile. Nous te demandons de nous bénir alors que nous allons de l'avant pour que nous puissions nous soutenir mutuellement et que nous puissions chercher les personnes qui ont besoin de ton évangile. Nous sommes reconnaissantes pour notre prophète, le président Monson, et nous te demandons de nous bénir tandis que nous nous préparons pour la conférence générale la semaine prochaine. Nous t'aimons beaucoup et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.